Languedoc, 96.5. On est avec Charline Claveau, présidente de l'Office public de la langue occitane, plus familièrement connue sous le nom d'OPLO. Adicias.
Adichat.
Alors, Charline, on va discuter évidemment de la place de l'occitan actuellement, avec en plus là cette loi Molac qui a été donc récemment adoptée. Mais on va d'abord rappeler l'OPLO qui a été fondée il y a 5 ans, donc maintenant. Donc, bon anniversaire l'OPLO. Pourquoi c'était nécessaire de créer un office de la langue occitane?
Alors, il y a eu un long cheminement pour arriver à la naissance de l'Office public de la langue occitane. Je pense que tout le monde se souvient, vos auditeurs se souviennent d'ailleurs que c'est à l'issue d'une grève de la faim, donc un acte quand même hautement symbolique donc de David Gros-Claude, qu'on a finalement abouti à la naissance de cet office. Et il faut savoir que la langue occitane est l'une des dernières langues à se doter d'un office public dédié, hein, puisque on l'a vu, le Pays Basque, par exemple, a un office depuis maintenant plus de 20 ans. Les Bretons en ont un également. Donc, effectivement, l'idée d'un office, c'est de mettre autour de la table, au sein d'une même instance dédiée à une politique linguistique, des collectivités locales. Au Pays Basque, ça fonctionne très bien. On assiste à une redynamisation de la langue. Mais à la différence de l'Office public de la langue occitane, vous avez tous les niveaux de collectivité et l'État. Je rappelle qu'au Pays Basque, on est sur le département, maintenant la communauté d'agglomération Pays Basque, le Pays Basque Sud, la région, l'État, etc. Pour l'Office public de la langue occitane, c'est un peu plus compliqué, ne serait-ce que par la territorialité de la zone occitanophone. Et aujourd'hui, l'OPLO porte sur les deux régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et intègre également l'État. Mais à ce jour, par exemple, nous n'avons pas encore les départements, et ce serait près de 22 départements qui seraient concernés. Donc là, ce serait vraiment une usine très importante avec tout ce que ça peut engendrer de complexité. Mais néanmoins, en tout cas, les 5 anciennes régions, puisque je rappelle que l'Office est né au moment de la fusion des régions. Donc en fait, ce sont 5 anciennes régions qui ont décidé de s'allier aux côtés de l'État pour porter cette politique linguistique, je le rappelle, qui est dédiée principalement à la transmission, à la socialisation de la langue. Toutes les actions en fait de type culture sont aujourd'hui portées encore par les régions.
Cet OPLO, donc on le disait, voilà, donc va de la Nouvelle-Aquitaine à la région désormais donc Occitanie. La Provence, le Provençal, pas encore. C'est une volonté de la région de ne pas venir encore dans cet office.
Alors, je dois vous avouer que il n'y a pas eu encore de propositions faites en ce sens, que ce soit pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou pour Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, je pense que ça tient un petit peu à un niveau de maturité un peu différent des politiques publiques en la matière. C'est vrai que la région Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon avaient des politiques plus solides, plus structurées depuis plus longtemps, avec un historique plus fort. Et effectivement, peut-être qu'à l'avenir, et ce serait sans doute souhaitable, les deux autres régions dont on vient de parler intégreront l'Office. Après, je ne vous cache pas que c'est un équilibre déjà délicat de faire fonctionner deux régions ensemble avec l'État. Évidemment, et comme dans toute histoire d'association, de collaboration, on a parfois des intérêts différents. Donc c'est un exercice assez difficile d'essayer d'harmoniser des actions entre deux collectivités territoriales différentes. Et l'idée, c'est qu'évidemment, l'une pousse l'autre et inversement à chaque fois, c'est d'aller plutôt vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis avec l'État également, puisque on le sait, les régions historiquement demandent à l'État, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Culture, de faire plus pour la langue. Donc voilà, pour l'instant, l'Office a 5 ans, effectivement, puisqu'il a été créé en 2016, mais 4 ans en réalité de fonctionnement. Et d'ores et déjà, ça a pris un certain temps pour installer cet office au sein du paysage institutionnel. Aujourd'hui, on a un peu terminé, on va dire, l'installation et l'assise. Maintenant, on est plutôt dans une phase de déploiement, mais on a encore énormément de chantiers qu'on n'a pas encore réussi à investir à plein. On est encore à demander à ce qu'il y ait plus de moyens pour porter cette politique. Donc, on va attendre peut-être un peu avant d'élargir le périmètre de l'Office.
Alors, justement, ce développement, comme vous le disiez, voilà, se poursuit et on se retrouve justement avec tout récemment, la mise en place, en tout cas, on se dote à l'OPLO d'un comité conseil. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Alors, le comité conseil, c'est une instance qu'on avait déjà expérimentée en 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office accompagne aujourd'hui un peu plus de 80 opérateurs sur le terrain. Si vous voulez, on a un certain nombre d'interactions. Et là, je parle plutôt du réseau associatif, par exemple, mais vous imaginez qu'il y a aussi les services déconcentrés de l'État, il y a aussi les autres niveaux de collectivités, les départements, etc. Si vous voulez, jusqu'à présent, la concertation, la construction commune, j'aime pas dire co-construction parce que j'en peux plus l'entendre ça à toutes les sauces, mais en tout cas, la concertation, on l'avait faite en 2017 au moment où on a élaboré notre plan d'action. On avait fait 5 ateliers sur les territoires pour faire des concertations, etc. Et on avait abouti à un plan d'action. En 2019, on avait testé une formule, donc le comité conseil, où là, en fait, c'était l'idée de s'inspirer du Césaire. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vos auditeurs connaissent, mais voilà, c'est les Césaires, c'est au niveau des régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, une instance où des personnalités de la société civile viennent donner leur avis sur les propositions de règlement d'intervention ou d'attribution d'aide et des dispositifs que proposent les régions. Et l'idée, c'était ça, c'était d'ouvrir un petit peu la concertation un peu plus largement. Et en 2019, ça avait été un succès, ça s'était extrêmement bien passé. Je pense que ça avait permis un échange à la fois sur les objectifs de l'Office, mais nous, côté Office, ça nous avait permis aussi d'avoir des retours terrain, c'est-à-dire d'avoir aussi plus concrètement des sujets qui se posaient sur la table pour certains opérateurs, par exemple, etc. Et donc, on a décidé de pérenniser le dispositif. C'est pour ça que cette année, comité conseil donc a été renouvelé. On est sur à peu près 12-13 personnes. Le CIRDOC, Institut Occitan de Culture, est membre de droit. Le Congrès permanent de la langue occitane est également membre de droit. Et ensuite, on a des représentants issus, alors, des collectivités, départements, communes, mais également du monde des médias. On demande à chaque fois à ce qu'une personnalité hors zone occitane, par exemple l'Office public de la langue bretonne ou l'Office public de la langue basque, puisse également assister au comité conseil, parce que c'est toujours utile d'avoir un regard sur ce qui se fait ailleurs et des situations similaires qui ont pu se poser. Et on a également des représentants, par exemple, du monde enseignant, je pense au réseau Créo, Falco, etc. Et l'idée, c'était cette année d'avoir 3 temps. Un premier temps où finalement on présentait la stratégie de l'Office, le contexte en fait dans lequel les actions de l'Office se trouvaient l'année considérée, parce que voilà, on tire les leçons des années précédentes, on explique nous aussi la manière dont on voit les choses. D'avoir une seconde séance où là, le comité conseil passait en revue l'ensemble des demandes en fait d'aide qui ont été formulées à l'Office, donc c'est beaucoup de dossiers effectivement, et les membres recevaient en amont évidemment les dossiers, l'information, etc. Et ensuite, chaque cas était discuté. Donc ça c'était donc des avis sont émis et portés à la connaissance ensuite de l'Assemblée générale qui va voter les aides. Et le troisième temps sera dédié évidemment à un retour sur ces avis, c'est-à-dire la réponse quelque part des élus aux avis qui ont été émis pour alimenter le débat. Et ensuite, ce comité conseil sera chargé de réfléchir à sa propre composition et à son propre fonctionnement, puisqu'on ne prétend pas avoir dès le premier coup la bonne formule. Donc l'idée,
On
c'est
sait jamais.
qu'effectivement, oui, enfin voilà. Après, c'est vrai qu'on s'attache sur ce comité conseil, vous l'avez compris, l'espace est très vaste, 22 départements, donc on s'attache à avoir quelques règles comme des règles de parité homme-femme, évidemment, des règles de représentativité territoriale, mais si vous voulez. L'idée, c'est que ces premières personnes puissent réfléchir à la meilleure composition possible, la meilleure représentativité possible, et également, pardon, quel sujet? Parce qu'aujourd'hui, là, on se concentre effectivement sur les aides aux opérateurs. Je rappelle que c'est 80% du budget de l'Office. Donc voilà, et le budget de l'Office, c'est 3 millions d'euros aujourd'hui. On a réussi à consolider et à augmenter ce budget-là. Mais après, on peut imaginer qu'il y a d'autres sujets dont pourrait s'emparer ce comité conseil. Et c'est cela qu'on souhaite réfléchir aujourd'hui avec eux. Voilà.
On va marquer une courte pause musicale, Charline, et au retour, justement, on va discuter de cette place de l'Occitan dans l'espace public actuel, et notamment avec ce coup de pouce qui a été donné récemment avec donc, cette loi Molac.
De la ciutat gascona a la plaggia de Narbonne, del nostro Milo Rosa a la strosse Carcassona, tutte sus mercats culars, semenats als quatre vents, treses estudants d'espartaments. Occitania, la spalla della vida, un territori in forma di balio. Occitania, un vertu di erfra d'amor, anche les paesaggi desbordant des colors. Regions, le flou mégaro non testimonia de la tradition. Si parle l'Occitan, une axel belle cantante, a per identità tu non lo sus estagiant. De las Pireneos al plater d'Aubrac, Mediterraneos al plater de l'Arzac, de Montpellier a la plano Carcinoro, la region nostra se suono Occitanio. Se que esperto esses aspes de nossos montanhos, nosso purido rezo, esse amigo de cucano, al som de las farandoros, o labio um semolum. Lupen d'altar, espengero la região, lupi pastel, vinci o nostro astarum, nossos pilhos cobrichum, em milheiras de luz, e tutta cor, a big de las azuis.
Voilà, de retour toujours avec Charline Claveau, présidente de l'Office public de la langue occitane. Charline, on discutait donc tout à l'heure donc de cette place qu'a l'OPLO et de ce que fait l'OPLO pour l'Occitan. Alors justement, on en est où de l'Occitan en 2021 ?
Alors, ça tombe bien parce qu'on a réalisé une grande enquête sociolinguistique dont on a eu le résultat en début d'année. Et c'est intéressant parce que pour la plupart des territoires, c'est pas vrai pour tous, notamment pour Limousin, on a pu comparer les résultats à l'enquête d'il y a 10 ans. On a essayé de faire une enquête assez large. Par exemple, la plupart des questionnaires duraient jusqu'à 18 minutes. Et on a également un panel représentatif très fiable puisqu'on est sur 8000 enquêtés. Donc, on a une certaine confiance dans la fiabilité des résultats. Et le premier constat, c'est que la langue occitane aujourd'hui, malheureusement, est encore en perte de vitesse, puisqu'on était à peu près à 10% de locuteurs il y a 10 ans. On est aujourd'hui en moyenne à 7. Voilà. Donc, le premier constat inévitable, c'est qu'effectivement, la langue continue d'être en perte de vitesse. Après, on a eu quand même quelques notes positives, puisque dans cette enquête, on n'a pas seulement été chercher qui parle et quel est le niveau de maîtrise de la langue. On n'a pas seulement été chercher le nombre de locuteurs et le niveau de compétences, on a également été chercher les représentations qu'ont les habitants de la langue et de la culture occitane. Donc, en ce sens, certes, le nombre de locuteurs continue de baisser, mais, par exemple, on a 2 à 3 départements qui, aujourd'hui, ont réussi à enrayer la chute du nombre de locuteurs. Et ça, c'est la première fois qu'on le constate. Je pense, par exemple, aux Pyrénées-Atlantiques ou au Tarn. Et généralement, ça fait écho aux politiques de développement de l'enseignement. Donc, ce n'est pas anodin. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, la volonté de transmission des parents ou des grands-parents aux enfants ou aux petits-enfants regagne des points et regagne du terrain. Ça, c'est encore une fois très important parce que même si c'est léger, la courbe est inversée. Et pour moi, ça peut s'expliquer par la revalorisation de la langue. C'est-à-dire que après une très longue période de dévalorisation et de mépris des langues régionales, toutes ces politiques de développement et surtout le fait de le proposer à l'école de la République, finalement, ça commence à porter ses fruits en termes de représentation positive de la langue. Si la langue est bonne à être enseignée à l'école, elle est bonne aussi à être transmise au sein de la famille. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et je crois que si la loi Molac est passée aussi aujourd'hui, il y a tout un tas de facteurs dont on pourrait discuter sur comment ça se fait, parce que c'est quand même un peu un vote surprise que la loi Molac ait réussi à passer le seuil du Parlement.
C'est quand même historique, ça fait 70 ans, 75 ans ?
Aucune loi dédiée aux langues régionales sous la Ve République n'a réussi à passer le seuil du Parlement. Et là, donc, effectivement, c'est historique. Il y a, à mon avis, des explications un peu conjoncturelles et on va dire des petites bonnes coïncidences de calendrier, mais il y a sans doute aussi peut-être une certaine maturité aussi des politiques publiques dans certains territoires. Il y a une idée en tout cas qui a fait son chemin. Aujourd'hui, on est confiant sur le fait que la langue soit quand même revalorisée, même s'il ne faut pas oublier qu'elle est encore très largement en danger.
Parce que c'est ça, parce que dans le cadre de la loi Molac, on a quand même, lorsqu'il y a eu les débats justement au Parlement, on a entendu le nombre de députés justement des différents territoires, que ce soit donc des Basques, des Corses, des Alsaciens, des Picards, des Bretons, des Occitans, évidemment. Chaque député qui a parlé était fier des valeurs, du patrimoine, de l'histoire, de la culture et de la langue, parce qu'on n'associe pas seulement, on a entendu certains mots qui ont été prononcés, je pense, en disant les intégristes, c'est pas la langue, je parle en occitan, je parle en breton, et puis je parle rien d'autre que le français, c'est aussi l'histoire, la culture, le patrimoine, c'est pas que la langue, c'est tout ce qu'il y a autour, et qui a été oublié.
Absolument, et malgré tout, et c'est très dommage, mais effectivement, on a entendu encore quelques mots qui nous écorchent un peu les oreilles. Par exemple, séparatisme dans la bouche même du ministre de Jean-Michel Blanquer, quand même. Donc, c'est il n'en demeure pas moins que moi je dis que c'est la victoire de l'envie de diversité linguistique et de l'envie de diversité culturelle sur la peur vis-à-vis de la division et de la désunion de la République. Mais quand même, attention, parce que certes, cette loi est passée, et je crois que c'est un signe fort symbolique d'un espèce de basculement idéologique, mais le ministre lui-même a quand même parlé de séparatisme. Donc, la digue est tombée. Il faut voir jusqu'où la marée va monter. Il ne faut pas oublier que cette loi est quand même passée contre l'avis, pour certaines dispositions, évidemment, du gouvernement. Donc, on peut se dire que les décrets d'application vont mettre du temps. Il y aura peut-être quelques résistances passives à la décision des représentants de la République. Mais bon, donc on verra. Mais effectivement, après, je crois que ces dernières années, il y a eu beaucoup de... dans l'espace médiatique, on a mis le doigt, enfin moi, c'est le sentiment que j'ai eu aussi, sur cette espèce d'injustice de traitement vis-à-vis des accents. Et vous savez, ça commence avec l'accent, et vous êtes journaliste, dans le milieu journalistique, il y a eu quelques enquêtes à ce sujet-là, comment on essaie de gommer les accents, etc. Voilà, il y a eu quelques réflexions. Je pense que le contexte aussi, peut-être, de crise sanitaire, ça c'est plutôt sur des raisons conjoncturelles, mais finalement qui sait ce qui va perdurer de cette période que l'on espère transitoire. Il y a quand même peut-être des tendances lourdes qui sont en train d'être mises en place avec ces effets de confinement où tout d'un coup on redécouvre, enfin on n'a même pas le choix d'ailleurs de redécouvrir la proximité du lieu de vie. On se retrouve un petit peu dans cette intimité géographique forcée et quelque part ça nous donne à nouveau un regard sur notre environnement proche et aujourd'hui les Parisiens fuient Paris, donc il y a une espèce de renouveau et de regain aussi pour les territoires et pour leur typicité. Et typiquement, le Pays Basque Nord a réussi ça, c'est-à-dire qu'un nouvel arrivant au Pays Basque, je caricature un peu, mais il s'intéresse au surf, il met son enfant chez CHK en cachetola, et il adopte l'obéré, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'une dynamique de territoire par rapport à une identité, elle n'est pas seulement portée par les gens qui en sont issus, elle est aussi portée par les gens qui y arrivent. Voilà, il faut les deux, à mon avis. Effectivement, on assiste un petit peu à un basculement. Néanmoins, je pense que la proximité des élections locales, régionales et départementales n'y sont pas non plus pour rien dans ce vote un peu surprise. D'ailleurs, Paul Molac lui-même le concède, mais tant mieux. Très bien. Après, on est encore loin de la co-officialité, hein, on va pas se mentir. Mais tout de même, il y a une disposition dans cette loi sur l'enseignement qui est de dire que le but, c'est de proposer à tous les élèves un enseignement de langue régionale. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire dans l'apprentissage. Mais il y a cette notion de généralisation. Et ça, c'est intéressant. Et nous, on espère que ça pourra faire peser notre voix quand il s'agit d'attribuer des moyens au niveau de l'éducation nationale pour proposer effectivement cet enseignement.
Justement, est-ce que vous sentez à l'OPLO, même si bon, effectivement cette loi Molac là est encore toute récente et c'est pas encore appliqué, il y a même pas les décrets, bon, il y a rien encore derrière. Mais est-ce que vous sentez que il commence à y avoir du côté des élus avec qui vous discutez à tous les différents niveaux, que ce soit justement du maire au président d'aglo, au président de département, président de région. Est-ce que vous sentez que il commence à y avoir, avec ce qui s'est passé là récemment, ok, oui, l'Occitan, pendant les dernières années, on a aidé, on a mis en place cet office, ok, on s'y intéresse, mais là maintenant, on va aller plus loin.
Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que nous, ce qu'on a fait à l'office, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'engagement des autres niveaux de collectivité que la région, hein, je pense aux départements, je pense aux intercos ou aux communes, hein, puisque c'est ce que dit la loi NOTRe, chacun peut prendre sa part, en tout cas, c'est une compétence partagée entre les collectivités locales et l'État. Le paysage est extrêmement hétérogène. Vous avez un département comme les Pyrénées-Atlantiques qui dédie 1 million d'euros pour la langue occitane, et puis vous avez des départements qui n'ont aucune politique formalisée, qui vont certes aider hein, des associations, par exemple, ou de la pratique amateur, mais sans qu'il y ait de feuille de route. Et pour les communes, vous allez avoir des communes qui mettent de la signalétique bilingue, qui accueillent une école, qui poussent la dynamique associative, et d'autres sur lesquelles c'est un non-sujet. Donc, ça, c'est difficile parce que c'est extrêmement hétérogène. Nous, c'est pour cela, en fait, qu'on a adopté ce que nous, on appelle la stratégie territoriale. D'abord, ça visait à dire, OK, on est sur 22 départements, là. On est une équipe de 7, c'est pas gérable. Donc, on va aller là où on peut avoir un effet levier. Et un effet levier, c'est pas là où les départements, les communes, la région sont déjà pleinement engagés. C'est là où il y a peut-être un tissu associatif intéressant. L'étude sociolinguistique montre qu'il y a ce substrat et vous avez peut-être une commune ou quelques collectivités qui commencent à s'engager. Et l'idée, c'est d'aller impulser cette articulation institutionnelle en faveur de la langue. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec la loi Molac, c'est qu'étonnamment, il y a de l'espace médiatique pour cette loi. Alors que je vous rappelle que cette loi, vous aviez aussi la loi sur la fin de vie, le même jour, puisque c'était la niche réservée à ce groupe parlementaire Liberté et Territoire, et que voilà, il y avait ces deux propositions-là. Et finalement, bon, malheureusement, la loi sur la fin de vie a été rejetée, n'a pas été votée, mais finalement, moi, j'étais très étonnée de voir l'espace médiatique qui a été laissé à cette loi sur les langues régionales. Et effectivement, c'est intéressant, surtout à l'approche des élections, si ça peut motiver des élus locaux pour se pencher sur la question, c'est plutôt bon signe. Et tant mieux. Nous, je sais que, par exemple, à l'Office, on essaie à chaque fois qu'on fait une action sur un territoire ou qu'on a une nouveauté, on écrit au département principalement. Et on le fait parfois, évidemment, il n'y a pas de retour, mais on le fait pour que petit à petit la graine soit plantée, etc. Et aujourd'hui, en plus, cette stratégie territoriale, nous, ça va être de dire à ces élus-là, mais vous savez, finalement, le simple fait de formaliser une politique, c'est très important, parce que le simple fait de la formaliser, ça veut dire que vous allez trouver une stratégie cohérente, vous allez y être attentif et vous allez communiquer. Et parfois, il y a des actions qui ne coûtent pas plus cher. C'est un article en oc dans le journal de la commune, ce genre de choses. C'est de la signalétique bilingue. La signalétique bilingue, c'est du renouvellement de panneaux. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses à faire. Mais souvent, ce qu'on se rend compte en allant sur les terrains et en rencontrant les élus, c'est qu'ils n'ont pas idée de ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Donc voilà, nous, ça c'est le chantier de cette année qui va démarrer à partir de septembre. On a choisi des localités, des territoires, et on va aller tâcher d'accompagner, d'expliquer en quoi c'est important et tâcher d'accompagner en leur facilitant la vie pour qu'ils trouvent des actions au niveau de leur échelon territorial à mener.
Je vais mettre ma casquette narbonnaise. Et Narbonne, alors justement, nous sommes situés où ici, dans les priorités de l'OPLO, justement, dans l'accompagnement?
Alors, Narbonne, j'ai envie de vous dire très spontanément, demandez au premier vice-président de l'Office public de la langue occitane, qui est Patrick Roux. Voilà. Alors, je ne crois pas, moi je vous avoue que je connais évidemment beaucoup mieux les territoires que nous avons sélectionnés, entre guillemets, pour cet accompagnement un petit peu plus poussé et plus proactif en Nouvelle-Aquitaine. Je ne crois pas que Narbonne fasse partie du territoire retenu, en tout cas cette année, pour ses premières actions et pour l'expérimentation. Mais écoutez, après, si vous êtes élu de Narbonne et en plus vous êtes dans la cause occitane, je suis sûre que vous poussez très bien cette nécessité de politique linguistique auprès de votre collectivité.
En plus, c'est ça, justement, la ville de Narbonne, nous avons une élue à l'Occitan, à la ville, qui est aussi à l'agglomération. Nous avons une radio en Occitan, un cercle Occitan, oui. Il y a un oustal Occitan, il y a deux calendrettes, un pôle culturel Occitan. Il y a de quoi faire ici.
Oui, mais justement, peut-être que comme vous êtes de très bons élèves, vous avez moins besoin de notre aide.
On ne peut que toujours s'améliorer. Il y a toujours place à amélioration.
Mais en tout cas, sachez que si vous toquez à la porte de l'office, elle est toujours ouverte.
Alors justement, si les gens là qui nous écoutent, ils veulent se renseigner sur les actions, les missions de l'office, comment ils peuvent retrouver toutes les informations?
Alors, ils vont sur le site de l'Office public de la langue occitane, ils tapent dans Google, ils vont tomber dessus assez facilement. Et là, on a un certain nombre de documents. On présente par exemple le bilan des actions. On a fait un bilan 2016-2020. Sur les premiers pas et la naissance de l'Office, et pour essayer de montrer un petit peu l'évolution, qu'elle soit d'ailleurs en termes de financement ou en termes d'actions menées et d'objectifs. Voilà, on présente les chantiers. Vous pouvez également trouver sur le site l'enquête sociolinguistique complète, et je peux vous dire que c'est un beau pavé, mais on a essayé de le rendre assez didactique et assez lisible et agréable à lire. Vous allez trouver évidemment, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus dans le détail, tous les procès-verbaux des assemblées générales, du conseil d'administration. Voilà, on essaie d'être le plus transparent possible évidemment et de présenter le plus d'informations. On est aussi en train de construire un observatoire de la langue. L'enquête, évidemment, vient nourrir cet observatoire, mais on est aussi en train de mettre en place certainement un outil un peu cartographique. L'idée, c'est que les gens qui veulent pouvoir trouver de l'information sur l'enseignement, les activités à côté de chez eux, puissent le faire assez facilement sur le site de l'Office. On avait déjà réalisé un état des lieux assez complet à l'époque, où on recensait les associations, les collectivités engagées, les écoles, etc. Donc, on est en train de construire cet observatoire-là.
Voilà. Charline, écoute, donc c'est assez complet, effectivement, là, ce qu'on peut retrouver sur ce site internet. Donc, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous donc du rôle de l'OPLO et de ses actions depuis 2016 et maintenant donc 2021 avec en plus là et d'avoir discuté de cette loi MOLA. Qu'est-ce que ça peut amener à l'avenir pour la défense de la langue et la culture occitane. Donc, merci plat et Adicias, Alcop Keben.
Merci, Adichat.